Vous écoutez, on lit pour vous.
Le prix de nos incivilités. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 10 septembre 2023 dans La Presse. Insultes, cris, gestes agressifs. Les incivilités sont un fléau que de plus en plus d'entreprises et d'organisations publiques tentent par tous les moyens d'endiguer. Mais en cherchant à protéger leurs employés, risquent-elles d'aller trop loin? Protéger les employés, museler les citoyens. À l'écocentre, à la clinique, à la bibliothèque, ils sont partout, ces écriteaux qui vous enjoignent de vous tenir à carreau. Ces affiches qui vous préviennent, péremptoires, aucune violence ni incivilité ne sera tolérée. Évidemment, leur message ne s'adresse pas à vous, plutôt à ceux dans notre monde qui se permettent de péter les plombs. Pas vous, non. Jamais. Mais vos voisins, peut-être, vos amis, vos collègues, beaucoup trop de gens qui n'hésitent plus à déverser leur trop-plein de colère sur des travailleurs ayant le malheur de croiser leur route, virtuelle ou pas. Quand on m'a demandé d'écrire ce dossier sur la flambée des incivilités au Québec, j'avoue ne pas avoir su par quel bout le prendre. Une chose semblait claire. Les incivilités sont devenues une plaie. Elles pourrissent la vie des travailleurs de la santé, des enseignants, des élus, des cols bleus, des préposés au service à la clientèle. De tout le monde, quoi. Pourtant, le concept demeure flou. De quoi parle-t-on au juste? D'impolitesse? De harcèlement? De violence verbale? En creusant un peu, je suis tombé sur une histoire qui a fait les manchettes à Trois-Rivières cet été. Là-bas, l'affaire a soulevé les passions et des questions importantes. À trop vouloir protéger leurs employés, les administrations risquent-elles de stériliser le débat public? Pourraient-elles même être tentées de profiter du flou entourant la notion d'incivilité pour bâillonner les citoyens qu'elles jugent trop critiques? Tiens, me suis-je dit. Je viens de trouver mon angle. Plantons le décor. Un conseil municipal déchiré par le projet d'expansion d'un parc industriel qui provoquera la destruction de plusieurs hectares de milieux humides. Une grogne populaire qui monte depuis des mois. En juillet, une opposante au projet d'expansion fait circuler sur Facebook un reportage de Radio-Canada datant de l'été précédent. Ce reportage révélait que des travaux de remblayage avaient été effectués en catimini et sans permis. « Ce sont des choses qui arrivent », avait laissé tomber le directeur de l'aménagement et du développement durable de la ville de Trois-Rivières, envoyé au front pour répondre aux questions de la journaliste. Disons-le comme ça, ce n'était pas la justification du siècle. Dans le reportage, ce haut fonctionnaire municipal semblait faire preuve de désinvolture. Peut-être n'était-ce qu'une fausse impression. N'empêche, il ne paraissait pas très bien. Joanne Hamel a vu passer le reportage sur Facebook. Elle a commenté. Une nouvelle qui démontre l'incompétence d'une personne qui défend ce projet de développement. Doit-on vraiment lui faire confiance? Un commentaire critique, donc. Un peu rapide, sans doute. Pas très gentil, on s'entend. Mais il n'existe rien de tel qu'un droit inaliénable à la gentillesse dans la Charte québécoise des droits et libertés, ni à la civilité d'ailleurs. Joanne Hamel a consacré sa carrière à la santé et à la sécurité au travail. Elle a enseigné la prévention des maladies professionnelles et milité pour l'adoption de politiques de prévention du harcèlement et de la violence au travail. C'est aussi une citoyenne engagée. Jusqu'à présent, elle avait toujours eu l'impression d'être du côté des bons, de se battre pour des causes importantes. Alors, quand un huissier a cogné à sa porte le 17 juillet 2023, elle est tombée des nues. D'autant plus que la lettre que lui tendait l'officier de justice contenait les mots « violence » et « manque de civisme ». Pour la première fois de sa vie, on l'accusait d'être du côté des méchants. La lettre proclamait que Johanamel avait contrevenu à la politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la ville de Trois-Rivières. En cas de récidive, elle risquait de se voir coller un constat d'infraction. L'amende pouvait atteindre 1 000 Son crime, ces quelques lignes sur Facebook à propos de la supposée incompétence d'un haut fonctionnaire municipal. « J'étais sous le choc », confie-t-elle. « On a pris un gros canon pour tirer sur une petite mouche. » Johanamel a riposté. « La ville tente de lui passer le bâillon », a-t-elle dénoncé en conférence de presse. Les médias locaux n'ont pas tous été tendres envers l'administration municipale, accusée de chercher à faire peur, à museler ses critiques. Je crois toutefois qu'il faut prendre un pas de recul pour évaluer cette affaire dans son contexte. Le dossier d'expansion du parc industriel a fait monter les tensions, au point de provoquer une véritable crise à l'hôtel de ville de Trois-Rivières. Des employés affirment être ébranlés. L'administration est allée jusqu'à imposer un détecteur de métal aux citoyens qui voulaient assister à une assemblée municipale. Et si une séance d'information sur le plan d'expansion du parc industriel s'est tenue en webdiffusion fin juin 2023, ça n'avait rien à voir avec la COVID-19. C'était pour des raisons de sécurité. Vous écoutez « Le prix de nos incivilités », un texte d'Isabelle Haché paru le 10 septembre 2023 dans La Presse. À bout de nerfs, le maire Jean Lamarche a quitté son poste pendant 6 mois. Quand j'ai décidé de revenir en juillet, c'était sur certaines bases. Il voulait assainir le climat de travail. Il a prévenu les leaders syndicaux. Si vos membres sentent une quelconque pression de la part du conseil ou de la population, je les encourage fortement à utiliser les outils mis à leur disposition pour préserver leur santé. C'est dans ce contexte, donc, que les services juridiques de la municipalité ont cru bon donner un avertissement à Johanamel. Les fonctionnaires de la ville de Trois-Rivières ont le droit de travailler dans un milieu exempt de violence et de propos incivils et doivent être protégés d'attaques personnelles sur la place publique en raison des gestes qu'ils posent dans l'exercice de leurs fonctions, lit-on dans la lettre. Éberluée, Johanamel n'a pas eu l'impression que ces mots s'adressaient à elle. Je ne me sentais pas concernée. Je me disais, il me semble que ce n'est pas moi, ça. Je n'ai pas fait ça. La politique sur la prévention de la violence de la ville de Trois-Rivières passerait difficilement le test des tribunaux, estime Louis-Philippe Lampron, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. L'intention est louable, admet-il. Face à la multiplication des actes agressifs et harcelants, la ville s'est engagée à ne plus rien laisser passer. Mais ce qui ne doit plus passer, c'est ce qui est déjà illégal. Les propos haineux, par exemple, font partie des limites à la liberté d'expression garantie par les chartes. Il faut se lever de bonne heure pour imposer un nouveau critère, surtout aussi flou que l'incivilité, comme limite raisonnable à la liberté d'expression. Envoyer l'huissier et laisser entendre qu'une amende sera imposée si on refait un commentaire sortant de ce que la ville de Trois-Rivières juge acceptable, ça ne marche pas, souligne Louis-Philippe Lampron. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus, ça risque d'être contre-productif. On s'en doute, l'affaire Johanamel n'a rien fait pour calmer la grogne populaire. Désormais, l'administration municipale est même accusée de censure. Ce n'est pas comme ça, déplore Mme Hamel, que la ville parviendra à inculquer une culture de participation citoyenne à Trois-Rivières. Le maire Jean Lamarche insiste. Il n'a pas été impliqué dans la décision des services juridiques de la ville, dont les avocats agissent un peu comme des procureurs indépendants. N'empêche, il s'est engagé à revoir la politique. Peut-être laissera-t-on tomber l'huissier à l'avenir. Sans doute vaut-il mieux ranger l'artillerie lourde quand vient le temps de rappeler les citoyens à l'ordre. Mais je pense que, comme premier magistrat, j'ai le devoir de mettre en place des outils pour protéger mes employés, maintient Jean Lamarche. La pandémie et le recours croissant aux médias sociaux font en sorte qu'il va falloir avoir collectivement une réflexion sur les modes d'expression de notre indignation et de notre désaccord. Pour moi, il y a une différence entre liberté d'expression et atteinte à la réputation. À partir du moment où on traite quelqu'un d'incompétent, une ligne est franchie. Je comprends le droit de ne pas être gentil, mais quelquefois, peut-on s'interroger sur la portée de nos actes? Juste ça. Comment faire pour que ça cesse? Trois-Rivières va peut-être trop loin pour protéger ses employés. Reste qu'il faut bien faire quelque chose pour lutter contre les incivilités qui font des ravages partout, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Mais comment faire, au juste, pour mater cette inquiétante rogne collective? Directeur adjoint du Centre de services scolaires des Mille-Îles, Sylvain Bruneau n'avait que 56 ans lorsqu'il a pris sa retraite en 2022. « Pour voyager », a-t-il expliqué à son entourage, « pour profiter de la vie trop courte. » Mais la vraie raison, c'est que je n'en pouvais plus des parents quérulents. Le gestionnaire en avait par-dessus la tête de ses parents rois, toujours plus nombreux, qui s'emportent, estiment que tout leur est dû et se plaignent sans cesse pour les moindres bêtises. Un moment donné, je me suis dit « c'est assez, je quitte le navire ». Si le gouvernement peine à recruter des enseignants à la rentrée, c'est en partie en raison de ses parents insupportables, toujours plus nombreux. Parmi le millier d'enseignants qui décrochent chaque année, beaucoup ont été poussés à bout par des individus qui semblent avoir oublié comment se comporter en société, estime Sylvain Bruneau. Cela provoque une démobilisation. Il y a bien des jeunes profs qui lâchent après quelques années parce qu'ils n'en peuvent plus. La majorité des parents sont très corrects, admet-il, mais il y a de plus en plus de trolls avec lesquels il n'y a aucun dialogue possible. Cela te complique la vie drôlement. Il ne compte plus les menaces de poursuite, les appels incessants, les cris, les insultes qu'il a été forcé d'endurer en tant que gestionnaire. De plus en plus d'individus n'acceptent pas de se faire dire non. Œuvrer auprès du public n'a jamais été aussi difficile. J'ai passé 30 années en éducation et de loin, les dernières ont été les plus éprouvantes, affirme Sylvain Bruneau. Ce manque total de savoir-vivre ne se limite pas au milieu scolaire, croit le jeune retraité. Maintenant, on voit apparaître partout des affiches prévenant qu'aucune violence ne sera tolérée, que le respect est exigé. Ça se vit partout. C'est vraiment un phénomène de société. Vous écoutez « Le prix de nos incivilités », un texte d'Isabelle Haché, paru le 10 septembre 2023 dans La Presse. Est-ce l'effet de la pandémie? Des confinements répétés, de l'inflation, des réseaux sociaux, d'une fatigue généralisée, un peu de tout ça? Toujours est-il que le bouchon a sauté. Les clients, les usagers, les élèves, les patients, tout le monde, partout, pète les plombs. Et ce n'est pas qu'une impression de gestionnaire à bout de souffle. Selon un rapport de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, les lésions attribuables à la violence ont augmenté de 25,7% entre 2018 et 2021, 35,9% pour la violence physique et 8,2% pour la violence psychologique. Les secteurs les plus touchés sont de loin ceux de la santé et de l'éducation. J'ai de plus en plus de demandes pour offrir des ateliers sur l'incivilité, autant dans les sociétés privées qu'au sein du gouvernement, affirme Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette et fondatrice d'étiquettejulie.com. L'incivilité est très coûteuse. Pensez aux conséquences du stress, de l'épuisement et des congés de maladie. Le monde municipal est aussi durement touché. En 2021, la Sûreté du Québec a reçu 400 signalements de propos menaçants envers des élus, 25 fois plus qu'en 2019. Selon l'Union des municipalités du Québec, au moins 311 élus ont remis leur démission depuis les élections de novembre 2021. La ville d'Amos a installé un bouton panique pour alerter la Sûreté du Québec en cas d'urgence. À Magog, seules les demandes formulées avec civisme reçoivent une réponse. La ville de Québec a lancé le projet Bouclier pour soutenir ses 7000 employés. Plusieurs nous relataient à quel point c'était difficile sur le terrain, raconte Marie-Josée Asselin, vice-présidente du comité exécutif de la ville de Québec. Des policiers qui se font envoyer promener, des signaleurs qui se font frôler par des voitures, des arbitres qui se font insulter. La municipalité est déterminée à ce que ça cesse. En plus de lancer une campagne de sensibilisation au printemps dernier, elle a créé un comité chargé de recevoir les plaintes de ses employés. Sans aller jusqu'à adopter une politique spécifique contre les incivilités, comme à Trois-Rivières, la Ville de Québec compte faire appel à la police et à ses services juridiques lorsque des gestes illégaux, comme des menaces ou des gestes de violence, seront faits à l'endroit de ses employés. C'est comme des gouttes d'eau qui s'accumulent, explique Mme Asselin. Quand cela fait partie de ton quotidien, cela devient extrêmement toxique. Avec le projet Bouclier, on voulait envoyer un signal que ce n'était pas acceptable de traiter les employés municipaux de cette façon-là, qu'ils étaient au service des citoyens, qu'on ne tolérerait pas ça. Reste à voir si les démarches de la Ville de Québec porteront leurs fruits. Sinon, comment faire pour que ça cesse? En plus d'offrir des formations à leurs employés, entreprises et organismes publics posent bien sûr ces fameux écriteaux bien en vue « Aucune incivilité ne sera tolérée sous quelque forme que ce soit ». C'est bien joli, mais est-ce que ça fonctionne? Pas nécessairement, estime Julie Blécomo. Ça met en lumière le négatif, ce qui est à ne pas faire. Ces écriteaux, c'est un peu une façon de dire « taisez-vous, prenez un numéro, ne posez pas de questions, surtout ne vous plaignez pas, même si vous poiretez depuis des heures ». Ces mises en garde écrites, c'est comme si on voulait mettre le couvercle sur la marmite en espérant que ça suffira pour éviter les débordements. Pourtant, ça ne réduit en rien les frustrations, parfois fort compréhensibles, il faut bien l'admettre. Des bureaux des passeports à ceux de la Société de l'assurance automobile du Québec, en passant par les corridors encombrés d'une salle des urgences, le parcours de l'usager moyen est semé d'embûches. Ce n'est évidemment pas une raison pour manquer de savoir-vivre, encore moins pour recourir à la violence. Cela dit, si la ville de Trois-Rivières semble parfois aller trop loin dans la défense de ses employés, d'autres organisations risquent au contraire de ne pas en faire assez. Les employeurs ne peuvent pas se contenter d'offrir des formations pour apprendre à leurs employés comment gérer l'agressivité des citoyens. Ils ne peuvent pas davantage se contenter d'afficher des avertissements sur les panneaux de plexiglas censés protéger les réceptionnistes, d'abord de la COVID-19 et désormais des enragés. Les employeurs doivent s'attaquer à la source du problème, réfléchir à ce qui provoque ces incivilités croissantes. Y a-t-il assez de réceptionnistes, justement? Les délais imposés aux usagers sont-ils humainement acceptables? Les employés, aussi exténués soient-ils, font-ils preuve d'un minimum d'égard envers les clients, les patients? Avec la pénurie de main-d'œuvre, il y en a qui se permettent de péter leur coche parce qu'ils n'en peuvent plus d'attendre, constate Julie Blécomo. Ce comportement entraîne une démobilisation qui fragilise encore davantage les équipes à bout de souffle. C'est un cercle vicieux. Évidemment, il ne serait pas mauvais, en plus de tout ça, de revenir à la base du vivre ensemble. dire « bonjour, s'il vous plaît, merci ». Se rappeler les règles élémentaires de la politesse, celles qui nous ont été inculquées dès l'enfance et que nous semblons oublier dès que nous retrouvons face à un cône orange, un panneau de plexiglas ou un écran d'ordinateur. Ça vaut pour l'employé comme pour l'usager, croit Madame Blecomo. La civilité comme l'incivilité est contagieuse. 25,7%. Pourcentage d'augmentation des lésions attribuables à la violence au Québec entre 2018 et 2021, 35,9% pour la violence physique et 8,2% pour la violence psychique. Source, statistiques sur la violence, le stress, le harcèlement en milieu de travail, CNESST. Des milieux à risque. En 2021, plus des trois quarts des lésions attribuables à la violence physique sont survenues dans les milieux de la santé et de l'enseignement. 62,1% dans le milieu de la santé, 18,6% dans le milieu de l'enseignement. Source, statistiques sur la violence, le stress, le harcèlement en milieu de travail, CNESST. C'était « Le prix de nos incivilités », un texte d'Isabelle Haché, paru le 10 septembre 2023 dans La Presse.
Au-delà du cadeau d'hôte, un texte de Virginie Landry paru le 1er novembre 2023 dans le magazine Caribou. Quand on est invité pour un repas ou une occasion spéciale, on offre fréquemment à la personne qui nous reçoit, outre la traditionnelle bouteille de vin, certains produits qui sont au fil du temps devenus des classiques. Voici ceux qui ont réussi à se hisser au rang de cadeau d'hôte par excellence chez les Québécois. Le cidre de glace. Le cidre de glace, un alcool tout doux, tout sucré, produit grâce au froid des hivers québécois et ayant reçu son indication géographique protégée, IGP, a obtenu le statut d'excellent cadeau d'hôte dès son invention dans les années 1990. Curieux de goûter à ce tout nouveau produit local, les Québécois en achètent alors des bouteilles pour le faire découvrir à leur famille et à leurs amis. Un cadeau d'hôte se doit d'être quelque chose d'original, qu'on n'a pas l'habitude de s'acheter soi-même, assure Bertrand Deltour, président du domaine Pinacle, une entreprise québécoise qui commercialise du cidre de glace depuis 2000. Se dégustant à petites gorgées et en petites quantités, cet alcool d'ici incarne le plaisir de recevoir et le côté exceptionnel d'une occasion. Il est festif, convivial, artisanal et authentique, résume avec aplomb ce connaisseur. Selon lui, bien que l'engouement pour le cidre de glace se soit un peu essoufflé, cela reste un excellent vendeur durant le temps des fêtes. D'ailleurs, Bertrand Deltour juge que ses principaux concurrents ne sont pas les autres alcools québécois, mais bien les fleurs et le chocolat. Les confitures. En créant ces produits gastronomiques haut de gamme, Jérémy Postel s'est inspiré des forêts de Sutton et a mis en valeur toutes leurs saveurs. Son miel artisanal parfumé au sapin baumier et ses riches confitures de petits fruits nordiques sont parmi les préférés des gens du coin, qui aiment en faire de jolis cadeaux, autant que des touristes qui en rapportent chez eux en guise de souvenirs de voyage. D'après leur créateur, ces confitures font de bons présents tout simplement parce que des tartinades, c'est facile à consommer. On en met sur des rôtis, des crêpes, des gaufres. Ce n'est pas un aliment spécial qui ne s'utilise que d'une seule façon et qui exige qu'on suive une recette. D'ailleurs, les étiquettes, sobres et luxueuses, ont été réfléchies expressément pour que ces petits pots soient offerts en cadeau. Le digestif à la crème. Lorsqu'on a envie de débourser un peu plus pour un cadeau alcoolisé, il n'est pas rare qu'on choisisse un digestif à la crème de type Bailey's. Le Saint-Crème, un produit de la distillerie Mariana, dont le goût rappelle celui du sucre à la crème, est un grand favori pour préparer des cafés glacés en été ou des boissons chaudes en hiver. De fait, 25 % des ventes de ce produit s'effectuent pendant la période des fêtes, souligne Nathalie Laberge, directrice générale de la distillerie. Un cadeau d'hôte, ça a pour but de faire plaisir. Que mon Saint-Crème soit considéré comme tel, c'est tout sauf négatif. C'est, à mon avis, le gage qu'il s'agit d'un bon produit. Si les digestifs à la crème ont la cote chez les Québécois, croit-elle, c'est qu'ils agrémentent les petits moments plaisants associés aux journées de congé. On en verse un soupçon dans son café du matin. On s'offre un petit verre en guise de dessert après un copieux repas. Polyvalent, le Saint-Crème peut aussi être utilisé pour cuisiner des desserts, en remplacement du lait, ou être versé sur de la crème glacée, une pointe de tarte ou un morceau de gâteau. Un cadeau consommable, c'est toujours le fun parce que ça n'oblige pas l'hôte à exposer dans ses maisons un cadeau qu'il n'aime pas. Nathalie Laberge, distillerie Mariana. Le confit d'oignon. Pourquoi est-ce que les gens aiment offrir du confit d'oignon? Parce que tout le monde sait quoi faire avec ce produit-là, lance Nathalie Robert, propriétaire du Petit Chaperon Rouge, une entreprise de Coaticook spécialisée dans les condiments haut de gamme. Pour la petite histoire, lorsque le Petit Chaperon Rouge lance sa gamme de gelée et de chutney locaux en 2005, il n'est pas encore question de proposer du confit d'oignon. Nathalie Robert croit à l'époque que le marché pour ce condiment sucré-salé, délicieux dans les hamburgers aussi bien qu'en accompagnement d'une viande, d'une terrine, de fromage ou de légumes, est déjà saturé. Cependant, ses clients lui en demandent. Elle en fabrique donc une première version qui connaît beaucoup de succès. Aujourd'hui, l'entreprise offre plusieurs variantes de son célèbre confit d'oignon, dont un à la bière, un autre au porto, un autre encore au canneberge, ainsi que son meilleur vendeur, le confit d'oignon caramélisé, populaire toute l'année. C'était « Au-delà du cadeau d'hôte », un texte de Virginie Landry paru le 1er novembre 2023 dans le magazine Caribou.